Bien, bonsoir. Nous sommes très heureux d'accueillir à l'Espace Mendès France Simeng Wang, sociologue, auteur d'une thèse très remarquée et soutenue récemment, en 2014, à l'École normale supérieure de Paris, et qu'elle a menée sous la double direction du sociologue Stéphane Beau et de Richard Rechmann, qui lui-même porte une double casquette de sociologue et de psychiatre des hôpitaux de Paris. Et si je me permets de rappeler ce point, c'est que ces combinaisons disent bien, à mon sens, que vous vous êtes emparé d'un objet singulier qui interroge les trajectoires sociales d'une population immigrée à travers son inégal accès aux services de santé et en particulier aux soins psychiatriques. Et je crois important de souligner qu'en vous intéressant aux souffrances psychiques des migrants chinois, votre approche va à rebours d'une historiographie vertueuse des parcours de réussite que les sciences sociales ont bien voulu mettre en exergue à travers l'étude de la diaspora entrepreneuriale et dynamique qu'est donc la diaspora chinoise, la diaspora, le modèle Wenzhou, etc. Et donc, je vous laisse la parole pour, voilà, pour voir avec vous comment l'institution psychiatrique peut être un observatoire pour proposer une sociologie des migrations.
Merci Anouche et William de m'avoir invité pour, dans le cadre de ces conférences, cette série de conférences qui s'annonce très très intéressante. Donc pour moi c'est une occasion d'abord de pouvoir partager mes recherches avec vous et en même temps de pouvoir découvrir en fait cette charmante ville qui est Poitiers, que c'est la première fois que je suis venue. Et je remercie également Anne pour votre accueil. Et comme ce qu'Anouche a annoncé tout à l'heure, aujourd'hui je suis ici pour partager ma thèse, pour présenter de manière assez synthétique en fait les principaux résultats de cette recherche. Comme vous l'avez probablement, vous allez voir sur l'écran, c'est qu'il s'agit d'une thèse de doctorat qui est intitulée de manière un peu longue, un peu complète, et qui s'intéresse à la fois à l'expression, aux expressions. Puisqu'il s'agit d'une manière en fait assez plurielle de s'exprimer, et aux gestions des souffrances psychiques de la population chinoise qui réside en région parisienne, qui constitue une population très très hétérogène. Je vais vous donner quelques éléments tout à l'heure plus en détail. Et peut-être avant de commencer vraiment le contenu de cette thèse, j'aimerais bien vous présenter un petit peu la genèse en fait de ce sujet, parce que je trouve que il serait peut-être intéressant de comprendre pourquoi j'ai décidé de faire une telle recherche qui est tout de même un engagement relativement long dans la vie, qui a duré 4 ans. Et donc, il y a 3 éléments qui m'ont amené finalement à travailler sur ce sujet. D'abord, il s'agit de mon propre intérêt personnel, à la fois personnel et scientifique, qui porte sur la dimension subjective de souffrance et de la santé mentale, hein, mais appréhendé d'une manière sociologique. Et donc, je vais revenir un peu sur mon parcours prédoctoral pour vraiment mettre en lumière de ce point-là. En effet, j'ai été scolarisée dans une université d'abord en licence et en master en Chine, d'abord dans une ville qui s'appelle Wuhan, qui est ma ville natale, et ensuite à Pékin. Pendant ces 7 ans au total, hein, parce qu'en Chine, en fait, la licence dure 4 ans et le master dans cette université, normalement, ça dure 3 ans. J'ai été formée en sciences sociales et pendant lequel je me suis vraiment intéressée à la question autour de la santé, surtout santé et la déviance. J'ai été amenée à travailler en équipe sur la prévention du sida en Chine, qui était pendant longtemps en fait un tabou dans la société chinoise, hein, dans un contexte, dans un régime relativement autoritaire. Et ensuite, pendant le master, je me suis intéressée à la prise en charge de la dépression mentale par l'angle de l'entraide mutuelle parmi des patients diagnostiqués comme dépressifs. Du coup, j'ai mené d'abord une ethnographie dans un hôpital psychiatrique à Pékin pour essayer d'observer en fait diverses formes de sociabilité en institution. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de venir à Sciences Po Paris pour mener une étude comparée sur le système de la prise en charge de la dépression mentale en Chine et en France. Une très courte durée, un très court séjour. En fait, ce que j'ai pu collecter sont contestables aujourd'hui avec un regard de recul. Mais ça m'a tout de même beaucoup intéressée parce que j'ai été stagiaire pendant 2 mois dans un centre de soins situé en région parisienne qui adopte une approche de la psychiatrie transculturelle. Donc tous les patients adressés dans ce centre ont été orientés en fonction de leur origine ethnique à un thérapeute qui maîtrise soit la langue, soit les connaissances sur cette société. Et donc je me suis dit que tiens, en fait, c'est intéressant parce qu'ici on voit que les patients ne se mélangent ni entre les classes sociales ni entre les origines ethniques, ce qui contredisait un peu ce que j'ai pu observer à Pékin. Déjà, dans un premier temps, en fait, à Pékin, c'est beaucoup moins cosmopolite que Paris, donc on voit pas beaucoup de, on voit uniquement des patients chinois. Mais dans l'hôpital psychiatrique où j'ai mené l'étude, même si les gens viennent des milieux sociaux assez différents, j'ai pu observer une réduction de la distance sociale à partir de la compassion. Issue de la même psychopathologie ou du même diagnostic. Donc cela m'a motivé un peu dans mes quêtes personnelles. Ça, c'est le premier point qui est vraiment en lien avec l'organisation du soin psychiatrique en France, hein, qui m'a paru assez spécifique. Donc j'ai envie d'approfondir. Le deuxième point, c'est que pendant ces 2 mois-là, j'ai beaucoup été interpellée par les images des Chinois véhiculées par la presse française qui selon moi ont surreprésenté certaines catégories sociales, notamment des commerçants en provenance de la région de Wenzhou, qui se situe un peu au sud de Shanghai. Et les autres catégories, surtout groupes sociaux professionnels, comme des travailleuses de sexe qui sont dans le quartier de Belleville. Alors que les autres sous-groupes au sein de cette population qui étaient déjà assez présents, au moins en région parisienne, n'ont pas été vraiment étudiés sociologiquement. Je pensais notamment aux réfugiés politiques, hein, par exemple, qui sont venus en France après les événements de Tiananmen qui ont eu lieu en 1989. Je pensais également à l'arrivée assez massive des étudiants chinois et après l'année 2000 qui sont venus principalement pour les raisons des études, mais dont certains choisissent de continuer à séjourner en France, soit pour les raisons professionnelles, soit pour les raisons de la vie privée. Et j'ai pu observer aussi que les descendants de migrants, même s'ils sont très très de migrants chinois, même s'ils sont très très nombreux, très peu d'études se sont penchées sur cette population par rapport à la lecture de nombreuses recherches qui portent sur les descendants de migrants d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne. Voilà, ça c'est la deuxième point qui m'a motivée aussi à mener une étude sur la population chinoise. La troisième, c'est vraiment repose sur l'aspect méthodologique qui est une approche ethnographique qui m'a beaucoup attirée depuis mon collège et lycée quand j'ai commencé à découvrir les sciences sociales françaises. J'ai lu assez tôt en fait le petit livre manuel de Stéphane Beau et de Florence Viper sur les enquêtes de terrain. Ces trois dimensions conjointement ont vraiment motivé cette recherche qui était au départ pour objectif de cibler la population chinoise, mais hétérogène, avec si je pouvais englober au maximum les sous-groupes au sein de cette population comme population d'études. Et deuxième point, de mobiliser en fait l'approche qualitative et notamment ethnographique comme méthode de recherche. Et en dernier lieu, c'est d'essayer d'appréhender la santé mentale de manière sociologique, avec des outils d'analyse sociologique. Voilà. Et donc, quand j'ai commencé ma thèse en 2010, j'ai découvert aussi toutes les écritures de Sayad, qui est un sociologue d'origine algérienne, portugisien aussi, qui a écrit sur le sentiment de déracinement et aussi la double absence ressenti hein, par les descendants de migrants algériens. Et donc, ceci m'a beaucoup inspirée dans le sens où, en fait, je me suis dit que est-ce que ces écritures seraient transposable à une autre population immigrée en France, mais était pourvue de dimensions post-coloniales, puisque les histoires entre la Chine et la France est très très différente de celles entre l'Algérie et la France. Les politiques migratoires et aussi les politiques d'accueil sont également distinctes. Donc j'ai eu l'idée de saisir cette interrogation, tel début de ma thèse, que je vais revenir tout à l'heure dans un second temps dans la partie de la présentation des principaux résultats. Et je voudrais également préciser que le terme, comme vous avez lu dans le titre de ma thèse, puisqu'il y a le terme psychiatrique qui est affiché, je voudrais préciser que l'usage de ce terme au cours de ma thèse est vraiment au sens large, hein, dans le sens où, en fait, lorsque je parle des soins psychiatriques, cela implique toute prise en charge en santé mentale qui relaye diverses approches, quelles qu'elles soient psychiatriques, psychothérapeutiques, psychologiques ou encore psychanalytiques. Donc, quand je parle de la population chinoise, il ne s'agit pas uniquement de ceux qui ont été diagnostiqués comme des personnes ayant des troubles mentaux. Il est important de rappeler ça parce que tout à l'heure, on va faire le tour des cinq sous-groupes, hein, que j'ai étudiés, dont certains, ce sont des gens comme vous et moi, qui ont juste besoin de, par exemple, de s'exprimer dans un autre cadre. Donc, maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'aspect méthodologique, hein, de cette thèse, puisque quand on parle des institutions psychiatriques, on a quand même l'impression qu'il s'agit des institutions totalement fermées, difficilement difficiles d'accès. Et donc, je voudrais souligner d'emblée que j'ai eu deux types principaux de lieux de la collecte de matériaux, dont le premier est en institution. Il s'agit d'une dizaine de structures de soins, tous situées en région parisienne, dans lesquelles je suis intervenue en tant que interprète, médiatrice interculturelle et stagiaire sociologue. Je vais tout à l'heure revenir sur ces différentes casquettes que j'ai portées, d'essayer de mener aussi une réflexion méthodologique en lien proprement parlé. Et le second type de lieu de la collecte de matériaux, c'est à l'extérieur du champ médical. Donc, il est vrai que j'ai rencontré, notamment par le biais institutionnel, des familles chinoises qui ont eu recours aux soins psychiatriques, mais avec la permission des médecins référents, j'ai pu rencontrer certaines familles à l'extérieur des institutions. Donc, j'ai parmi les 180 familles que j'ai vues au moins une fois en consultation. J'ai pu plus d'une moitié de ces familles, parfois parfois sur différentes scènes, différents champs de leur vie de migrants. Parfois c'est au domicile, parfois j'accompagne les parents à l'école pour traduire certains discours de lorsqu'ils ont été convoqués par les enseignants. J'ai pu également accompagner certaines familles dans le cadre de en tribunal, hein, dans le cadre de procès, et donc rencontrer également certaines familles en association. Donc vous voyez, en fait, j'essaye de suivre au maximum, en fait, ces familles sur les différentes scènes sociales pour essayer de collecter leurs impressions, qui sont parfois très controversées et très contradictoires, à l'écart d'une même prise en charge ou bien à l'écart d'une même pratique thérapeutique professionnelle. Je vais y revenir tout à l'heure. Et donc, si on peut se dire, si on peut dire qu'en fait j'ai porté trois casquettes vis-à-vis des professionnels de santé, je pense qu'on pourra aussi distinguer les trois rôle différencié que j'ai face aux Chinois, aux familles chinoises. La première, c'est le rôle de compatriote, parce que moi-même, je suis chinoise, je parle aussi la même langue, encore ça dépend des dialectes, mais je parle le même langage standard du pays. Le deuxième, ce serait... C'est une attente, parce que déjà en institution, c'était moi qui traduisais toutes les sciences thérapeutiques, et en fonction, à la suite de leurs demandes, je les accompagne et je dispense également gratuitement mes services de traduction. Et troisième, c'est l'enquêtrice, parce que j'essaye de mener aussi des entretiens avec eux, et à ce moment-là, je me suis rendu compte que parfois ils paraissent un peu plus réservés à répondre à certaines questions, ou bien d'essayer de changer de registre de réponse, par exemple réfléchir davantage, plus longtemps avant d'y répondre, etc. Et donc, je reviens un peu sur ce qui se passe en institution. Il est vrai que il est difficile, en fait, de distinguer clairement quels sont les moments où je faisais l'interprétariat, quels étaient les moments exacts où je faisais la médiation interculturelle. Il faudrait dire que souvent, à la sortie des consultations qu'on faisait ensemble avec des psychiatres ou pédopsychiatres, ces professionnels de santé ont souhaité de prolonger un peu les discussions avec moi pour essayer d'obtenir des repères, entre guillemets, c'est leur usage, des repères culturels, pour décoter, en fait, certaines réactions des Chinois qu'ils ont vues en consultation. Par exemple, pourquoi tout à l'heure, tout d'un coup, cette mère s'est mise à pleurer, est-ce que... souvent, il y a des raccourcis culturalistes que je vais également développer un peu plus loin. Mais il m'est aussi également arrivé, même assez souvent, d'intervenir lors des réunions de l'équipe de soignants au sein de l'institution, sur l'histoire des vagues migratoires des Chinois depuis la Chine vers la France, sur les caractéristiques sociologiques de ces populations, sur également les mobilités géographiques, mais aussi sociales de ces gens-là. Donc, il est vrai que ces trois rôles en institution se combinent, et donc c'est également pendant ces moments-là où j'ai découvert finalement la construction et la production langagière en institution fermée, et que quelles sont les possibilités, les conditions de possibilité pour un sociologue ou pour une sociologue d'intervenir dans un champ relativement fermé, un champ psychiatrique relativement fermé. Et donc maintenant, je suis amenée à vous présenter la structure et aussi les principaux résultats de la thèse. Cette thèse s'est organisée autour de trois parties. Les deux premières parties s'inscrivent, je dirais, plutôt dans une sociologie des migrations internationales, dans lesquelles j'ai présenté les différents portraits migratoires, dont la première partie porte sur les migrants de la première génération, qui s'est déclinée en trois chapitres. Le premier chapitre portait sur les réfugiés politiques qui sont venus fin des années 80, début des années 90 en France, après l'événement des Tiananmen. Et ce sont principalement des migrants intellectuels, des exilés qui étaient dotés en fait de ressources culturelles, hein, parce que la plupart d'entre eux étaient déjà soit étudiants à l'université, soit enseignants à l'université en Chine. Et donc l'idée, c'est de voir d'un côté comment ils ont été amenés à la porte des psys vraiment au pluriel, et en même temps comment au cours de leur suivi psychiatrique les rapports de force se manifestent. Donc la problématique, hein, de cette partie de la thèse était autour en fait de l'emprunt du cadre thérapeutique comme un lieu de reconstruction de la mémoire collective, dans le sens où en fait il s'agit d'une population qui recourt majoritairement en libéral, c'est-à-dire auprès des psychothérapeutiques, des psychothérapeutes, parfois et très souvent d'orientation psychanalytique, et autour en fait au cours de leur consultation, les mémoires autour de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont vécu sur la place Tiananmen étaient fréquemment rappelées. Donc pour certains enquêtés qui n'exercent pas un métier en lien étroit avec la parole, par exemple des non-chercheurs, des non-artistes parmi ces exilés, ils m'ont raconté en fait ce besoin de voir quelqu'un pour pouvoir renouer le contact avec leur pays d'origine, et également de renouer cette mémoire qui était pour eux difficilement racontée dans leur vie courante. Surtout pour ceux qui travaillent dans le monde commercial et économique, qui m'ont dit que de toute façon aujourd'hui le centre économique du monde se trouve en Chine. Donc même si je ne pourrai pas retourner en Chine pour des tas de raisons, parce qu'ils sont toujours sur la liste d'arrestation. Mais rien n'empêche que dans mon travail, je serai amenée à travailler avec des Chinois. Donc je ne peux pas raconter n'importe quoi. Surtout, il faut avoir un discours assez censuré. Donc j'ai besoin de certains lieux dans lesquels où je pourrais m'exprimer librement. Et voilà. Et donc à travers en fait leur itinéraire de soins, j'ai pu constater que d'un côté leur souffrance sont vraiment politisées, dans le sens où, en fait, c'est vraiment une souffrance en lien avec cette impossibilité de retourner en Chine. Et en même temps, leur souffrance porte une dimension politisante, dans le sens où, en fait, lorsque je regarde un peu leur modalité de transmission intergénérationnelle au sein de la famille, il est intéressant de souligner que, par exemple, vis-à-vis de leurs enfants, ces réfugiés politiques, ils ne vont pas mettre en avant leur expérience personnelle en lien avec l'événement Tiananmen. En revanche, ils vont parler plutôt à un nous, c'est-à-dire que de transformer leur vécu personnel pendant cette période-là en une expérience collective de mobilisation sociale. Je ne sais pas si c'est vraiment clair. Et donc, il est intéressant de comparer cette population avec d'autres réfugiés politiques d'origine d'ailleurs, qui ont été souvent considérés comme des victimes, alors que ces réfugiés politiques chinois qui sont venus après ces mouvements sociaux ont été plutôt attribués à une image de héros. Et qu'eux-mêmes, ils participent à cette construction, à ce processus de construction, y compris leur thérapeute qui participe également à ce processus. Voilà, ça c'est le premier chapitre de ma thèse. Et ensuite, je me suis intéressée à un autre sous-groupe qui est également qualifié, mais qui est arrivé en France beaucoup plus tard que les réfugiés politiques, qui sont les jeunes qualifiés, les jeunes migrants qualifiés, qui sont arrivés massivement après l'année 2000, surtout après l'établissement des échanges universitaires entre la Chine et la France à la suite des années France-Chine. Je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de choses qui se sont passées en 2005, mais c'était censé être l'année chinoise en France qui a été précédée par l'année française en Chine en 2004. Donc, comme vous le savez, il y a eu énormément de contrats d'échange, d'accords d'échange qui ont été signés entre les grandes écoles, mais aussi des universités françaises, avec le côté chinois. La problématique de ce chapitre est très différente de ce que je venais de vous présenter, parce que je me suis rendu compte que l'idée, vous avez compris que l'idée de la thèse, hein, c'est de travailler à la fois sur l'expression des souffrances de chaque sous-groupe et travailler sur la gestion de ces souffrances. C'est-à-dire comment ils s'expriment de manière différente et ensuite comment ils le gèrent en lien avec les institutions de soins. Mais en même temps, si on parle de l'expression et de gestion, de la gestion, qui se trouve tous les deux en aval de l'apparition des souffrances, hein, vous êtes d'accord. Et donc, il serait incapable de ne pas travailler sur, bien évidemment, la sociogenèse de souffrance, donc, qui est aussi une dimension importante de ma thèse, qui n'a pas été formulée de manière explicite dès le début, mais finalement, dans chaque chapitre, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur les réfugiés politiques, il y a aussi ce côté de la genèse des souffrances. Et là, pour les jeunes qualifiés chinois, là, je me suis rendu compte que leur souffrance est très, très en lien avec le dérèglement du marché matrimonial dans un contexte transnational. Ce chapitre a adopté une approche du genre, hein, tout en essayant de voir pourquoi les étudiantes, les anciennes étudiantes, parce que en fait, j'ai pas pris en considération la catégorie étudiant comme la population d'études, parce que pour moi, ils sont des passants, mais si ils ont décidé de s'installer définitivement au moins sur une durée au-delà de 5 ans à la sortie des études. Hein, je les considère comme des migrants qualifiés. Pourquoi les femmes qualifiées, jeunes femmes qualifiées, par rapport aux hommes, elles parlent de leurs soucis matrimoniaux de manière différente. Comment ces soucis matrimoniaux sont renvoyés aux pressions parentales qu'elles et qu'ils ont reçues au pays d'origine. Parce qu'il s'agit des primo-arrivants et pour la plupart d'entre eux, leurs parents continuent à résider en Chine. Je ne sais pas si tout le monde d'ici a déjà entendu parler d'un phénomène qui s'appelle Sheng Nu. Ce sont des femmes laissées, les femmes qui restent, qui est littéralement traduit par ce terme, pour qualifier en fait les célibataires femmes qui n'arrivent pas à se mettre en couple, mais surtout qui n'arrivent pas à se marier après tel âge. En fait, cet âge évolue, bien évidemment, avec la transformation de la société chinoise qui est très rapide. Donc, on voit que cet âge ne cesse de repousser. Hein. Il y a encore 5 ans, cet âge est à peu près fixé vers 26 ans, et ensuite 28 ans, et maintenant c'est 30 ans. Je n'en doute pas que cet âge va encore repousser. Pour les hommes qualifiés, leurs soucis matrimoniaux est majoritairement en lien avec le manque de femmes appropriées qu'ils pourraient trouver en France. Dans le sens où, en fait, on sera amené à parler de l'attente des normes sociales de matrimoniales, hein, qui sont assez récurrentes en Chine, dans le sens où en fait il s'agit principalement d'une génération d'enfants uniques dont on est en train de parler. Donc l'attente des parents vis-à-vis d'un homme qui est déjà fils unique et parfois petit-fils unique également est beaucoup d'un retour en Chine définitif dans certains temps est beaucoup plus forte qu'une attente par rapport à une femme de la même qui est située dans la même situation. Et donc pour ces hommes, d'un côté il y a cette attente parentale, et de l'autre, en arrivant en France, ils ont découvert aussi une liberté dans la vie, aussi leur champ des possibles se sont vraiment ouverts. Ils n'ont pas forcément la même vision de la mobilité, mais aussi de la mortalité, de la prise en charge des personnes âgées que leurs parents. Et donc, pour eux, ils se retrouvent un peu dans un piège, si je cite le terme d'un enquêté, c'est-à-dire que d'un côté, ils voudraient trouver la femme, une femme avec un esprit ouvert, qui ne pense pas uniquement à l'argent, parce que ça renvoie également en fait à l'éthos matrimonial en Chine. En fait, la réussite économique devient un indicateur assez primordial dans le choix du conjoint. Mais en même temps, ces hommes qualifiés, ils étaient quand même obligés de faire face aux attentes de leurs parents de pouvoir revenir un jour en Chine. Et cela implique qu'ils devraient trouver quelqu'un, soit une Chinoise, ou bien une Taïwanaise, ou bien une Asiatique, de toute façon, qui est géographiquement pas très loin de d'où il provient, ou d'une étrangère, d'une occidentale, mais qui pourrait être intéressée par la Chine, ou qui pourrait être intéressée par une vie ultérieure en Chine. Donc ça restreint beaucoup le marché, donc il y a très peu de choix s'ils ajoutent encore chacun leurs propres critères personnels. Alors que pour les femmes qualifiées, les problèmes ne se posent pas en fait à l'étape de trouver quelqu'un, mais plutôt une fois mise en couple avec quelqu'un, toutes les questions autour de la sexualité, autour de la du statut. Parce que on peut aussi s'engager avec quelqu'un en France à travers un PACS, alors que le PACS n'existe absolument pas en Chine. Donc autour, et également autour de la modalité de cohabitation ou non, autour des projets d'enfants, et aussi autour du décalage d'âge. Voilà. Donc La problématique de ce chapitre était justement de voir comment, face au dérèglement du marché matrimonial dans un contexte transnational, ces migrants élites, hein, hommes et femmes, adoptent de différentes stratégies pour trouver leur futur conjoint, trouver ou non leur futur conjoint, et comment cela déclenche en fait de manière également différente leur souffrance. Et pour revenir un peu à l'étape de l'usage du soin, pareil comme des réfugiés politiques, il s'agit d'une population qui recourt dans le secteur privé, parce que la plupart d'entre eux maîtrisent le français. Mais pour ceux qui ne maîtrisent pas le français dans le secteur privé par rapport au secteur public, il est beaucoup plus facile de trouver un soignant qui maîtrise le mandarin. Que dans le secteur public, c'est-à-dire il y a des psychologues et aussi des psychanalystes qui sont eux-mêmes des Chinois ou des Chinoises qui sont venus pour faire des études en psychologie, ensuite qui ont ouvert leur leur cabinet. Dont certains, en fait, finalement, certains, c'est intéressant de voir aussi l'évolution, parce que ces derniers temps, j'ai commencé aussi à rencontrer des étudiants chinois qui recourent à une télépsychiatrie, donc qui font des séances thérapeutiques sur Skype avec un soignant qui est chinois et qui est en Chine. Alors, je voudrais aussi souligner le fait que, en fonction des classes sociales, hein, de l'origine sociale, on voit bien que l'individu ne dispose pas de la même, du même rapport à la parole. Dans le sens où, en fait, on va voir tout à l'heure avec le cas des migrants en position extrêmement précaire et parfois extrêmement précaire, les réfugiés politiques et des étudiants sont vraiment les seuls qui sont ouverts à une approche thérapeutique appuyée sur la parole, c'est-à-dire la psychanalyse ou la psychothérapie. J'ai entendu parler de la part des sans-papiers, par exemple chinois, qui me disent ça sert à quoi de parler, je comprends pas, il suffit de, déjà j'ai déplacé en fait encore mon horaire de travail pour venir ici, si c'est juste pour blablabla, je vois pas l'intérêt, etc. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, le troisième sous-groupe que j'ai étudié, qui fait aussi partie des primo-arrivants, sont justement ces migrants issus des milieux populaires. Pour le coup, qui sont originaires principalement de la région de Wenzhou, dont je vous ai parlé, alors que géographiquement parler, les réfugiés politiques et les anciens étudiants, ils viennent un peu de tout, en fait, un peu de partout en Chine. Et donc, quand je me suis intéressée aux migrants en milieu populaire, notamment des sans-papiers, j'ai mis la focale notamment sur les parents d'enfants malades, des parents qui ont au moins un enfant pris en charge en pédopsychiatrie. Et la problématique de cette partie de ma recherche est d'essayer d'étudier en fait les usages sociaux du droit. Je me suis intéressée à la transformation en fait d'un suivi pédopsychiatrique en quelque sorte, hein, en ressources juridiques ou administratives. À force de suivre en fait ces familles chinoises à la fois, de suivre à la fois leur itinéraire de soins et la trajectoire migratoire, c'est-à-dire l'évolution du projet migratoire, je me suis rendu compte que cette image en fait stratège des sans-papiers, des migrants sans-papiers, est vraiment contestable, dans le sens où on entend souvent parler si les gens n'arrivent pas à se régulariser avec telle ou telle, en suivant telle ou telle procédure, ils vont se réclamer être malades ou avoir un enfant malade. Ça, c'est un discours assez très réducteur, parce que à travers mon terrain, ce que j'ai pu voir, c'est que effectivement, certains parents déposent une telle demande pour de régularisation, mais tous les parents ne vont pas jusqu'au bout de leur démarche. La plupart d'entre eux renoncent hein, à une telle demande parce que ils se sont rendus compte que finalement, la maladie de leur enfant ne sera pas à être résolue à travers une régularisation miraculeuse, mais c'est plutôt les conditions d'existence trop démunies en tant que sans-papiers en France qui ont généré en fait la maladie de leur enfant, notamment pour des psychopathologies type développement personnel. Une mère m'a dit d'un enfant qui a été diagnostiqué autiste hein, infantile m'a dit que je me suis renseignée, je comprenais pas trop qu'est-ce que ça veut dire l'autisme. Je me suis renseignée sur les sites internet en mandarin. J'ai lu que le manque d'espace pourrait être un facteur majeur qui déclenche l'autisme. Et donc chez moi, j'ai réfléchi. Du coup, il est vrai que quand mon enfant avait à peu près un an, il a commencé à faire des sons, à faire de certains mots, mais c'était en hiver. Et puis, comme tous les deux, on est sans papier avec son conjoint, son mari, et qu'on connaissait pas trop en fait où l'amener pour sortir. Donc, pendant 3 mois, on n'a quasiment pas sorti de la maison. Et comment ils ont été logés chez eux? Ils étaient trois dans une chambre de 12 mètres carrés. Et donc, effectivement, ça colle avec ce qu'elle a lu sur Internet. Le manque d'espace pourrait déclencher un trouble de développement pour l'enfant. Donc, elle a commencé à songer à une possibilité de retourner en Chine à partir du moment où elle a compris que les conditions de vie démunies en France pourraient contribuer au mal-être de son enfant. Et elle m'a dit, il est vrai qu'en Chine, on vient d'un petit village, l'espace pour nous, ce n'est pas un problème. Et cette famille, finalement, est repartie en Chine. Pour la deuxième partie de la thèse, j'ai décidé de me focaliser vraiment sur les descendants de migrants, en divisant en fait en deux chapitres, dont le premier s'est intéressé aux enfants de migrants chinois nés en Chine, mais qui sont venus en France avant l'âge d'adulte, donc qui sont souvent venus par regroupement familial, mais pas uniquement. La problématique de cette partie de mon travail, c'est essayer de comprendre d'essayer d'étudier en fait un phénomène hein, que j'ai découvert sur le terrain, que j'ai nommé des obligations familiales à rebours, que je vais vous expliquer, qui m'a paru assez spécifique à la population d'origine chinoise, dans le sens où ces enfants pour la plupart d'entre eux, n'ont pas forcément vu leurs parents avant d'arriver en France, parce que leurs parents ont confié ces enfants nés en Chine aux grands-parents, qui résident souvent en milieu rural en Chine. Et ces parents-là sont partis en France, parfois ensemble, parfois individuellement, parfois femme d'abord, ensuite l'homme, parfois à l'inverse, pour tenter leur chance de gagner de l'argent. Et avec l'argent que ces parents renvoient aux grands-parents en Chine. Ces enfants, avant de venir en France, avaient l'impression que leurs parents avaient une vie très aisée en France, avec le taux de change qui était très, très important, encore il y a encore 3-4 ans. Ces enfants étaient considérés un peu comme des enfants rois du village, voilà, sans souci. Mais le jour où, bien évidemment, pendant cette période-là, leurs parents les appelaient, les écrivaient, ils avaient quand même un contact assez régulier. Mais lors du moment où ses parents souhaitent que ses enfants se rejoignent à eux en France, ces enfants vivent finalement à une sorte de choc total, parce que quand ils sont venus ici, ils ont découvert que finalement leurs parents parfois étaient logés encore dans les dortoirs. Ces parents n'ont pas forcément leur propriété immobilière, et que leurs parents restent encore salariés dans un restaurant, ou qui ont connu leur propre ascension sociale. Donc ses parents sont passés des sans-papiers aux propriétaires d'un petit commerce, par exemple d'un restaurant ou d'une épicerie. Mais leurs parents ne maîtrisent absolument toujours pas français, et que leurs parents vivaient dans un monde très fermé en France. Et donc ces enfants, après quelques années de scolarisation en France, commencent à bien maîtriser la langue. Donc, à ce moment-là, leurs parents exigeaient parfois que l'enfant les aide dans divers domaines. Par exemple, à les aider à lire des courriers en français, à les accompagner à la poste, à faire des démarches administratives, à résoudre des problèmes avec EDF ou GTF, des choses comme ça. Donc, ces enfants se sentaient obligés de rendre un service sociolinguistique, mais également culturel, à leurs parents. En quelque sorte, ils sont devenus un peu comme les parents des parents pour les aider à se débrouiller dans la vie courante en France. Ceci rejoint un peu à ce que d'autres sociologues, notamment, je pense, Bernard Alaïr, qui a écrit sur les enfants issus des classes populaires, qui aident leurs parents à lire des courriers, à aider leurs petits frères et sœurs à faire des devoirs à l'école, etc. Et aussi, parfois, ces enfants ont été demandés par leurs parents de têter dans le commerce familial, de se servir comme serveur ou serveuse dans le restaurant, ou même aider leurs parents à retirer des fils du vêtement, s'il s'agit des parents qui travaillent comme des couturiers ou des couturières au domicile. Et voilà, donc leur souffrance est vraiment en lien avec, d'un côté, une longue séparation lors de la petite enfance, parce que parfois ils ne se retrouvent pas du tout comme enfants de leurs parents, parce que c'est un peu le froid et la silence au sein de la famille, et que personne dans la famille parlait en réalité de cette modalité de migration en deux temps, de laisser les enfants au pays, et en même temps les souffrances sont aussi générées après cette pression parentale de rendre service aux membres de la famille, dans le sens où en fait ces enfants ne sentaient pas forcément en tête envers leurs parents. Donc il y a vraiment des malentendus, mais aussi du froid au sein de la famille entre les générations. Alors pour le dernier sous-groupe que j'ai étudié sont des enfants nés sont des enfants de migrants chinois, mais nés au pays d'accueil. Donc ce sont des Français d'origine chinoise et en fait, dans ce chapitre, j'ai essayé de travailler sur l'articulation entre les mobilités sociales et les difficultés psychologiques, en distinguant en fait les trois principales classes sociales. Ce qui est un peu, peut-être, pourrait paraître un peu frappant pour vous et pour quelqu'un qui n'a pas vraiment observé les conditions d'existence réelles des familles en classe populaire, hein, extrêmement précaire. Il est parfois difficile d'imaginer que pour certains descendants de parents sans papier, aller en psychiatrie, être hospitalisé dans un hôpital de jour ou être pris en charge, c'est-à-dire être déplacé dans un foyer, peuvent leur ouvrir des champs de possibles, peuvent leur accorder une chance de réussite. Parce que certains enfants racontent que finalement à la maison j'ai pas de chambre, j'ai même pas d'un bureau pour travailler, pour faire les devoirs. Donc je peux pas. C'est seulement après avoir été à l'internat qui mélange en fait, qui combine le soin et l'éducation, que j'ai compris que pourquoi j'ai échoué scolairement, parce que je n'ai pas eu de conditions matérielles qui me permettent de me concentrer pour réviser, etc. Et à l'internat, j'ai pas ma chambre ne pourra pas être fermée à clé, mais au moins j'ai déjà une chambre. Donc cela change complètement des logiques, hein, qui lient les souffrances et les mobilités sociales. Je vais vous donner un autre exemple d'un descendant plutôt issu des parents élites, qui a été scolarisé dans les grands prépas parisiens, qui me raconte en fait les pressions qu'il a reçues de la part de ses parents, d'intérioriser, de répondre à plusieurs systèmes de réussite, non seulement conformément à la société française, mais également à la société chinoise. C'est-à-dire que leurs parents, les parents de ces enfants-là leur demandent, par exemple, de pouvoir à la fois bien maîtriser le piano et des guzhen, des instruments musicaux traditionnels chinois, de pouvoir à la fois maîtriser le latin, mais également la littérature ancienne chinoise. J'exagère un peu, c'est des exemples, juste pour vous donner un exemple, de pouvoir apprécier à la fois, par exemple, la cuisine française, de savoir savourer les saveurs, le vin, etc. Mais également de pouvoir maîtriser, de comprendre si on vous demande de manger tel ou tel plat ensemble. Ça veut dire qu'il y a un mélange de chaud et froid qui renvoie en fait aux connaissances en médecine chinoise. Donc, ce sont des enfants, des élites qui ont été demandés à devenir les élites internationales, donc qui souffrent de devoir en fait de se perdre parfois en fait dans les différents systèmes de réussite. Voilà, ce sont les cinq sous-populations que j'ai étudiées dans les deux premières parties de ma thèse, et donc la troisième et la dernière de la thèse relève plutôt de la sociologie du travail médical, dans le sens où en fait j'étudie dans cette partie les relations thérapeutiques à l'épreuve de l'ethnicité, en mobilisant notamment les matériaux que j'ai pu collecter en institution, d'essayer d'analyser cette relation trianculaire entre les professionnels de santé, les familles chinoises et moi-même, essayer de comprendre comment, par exemple, un terme traduit de telle manière ou d'une autre pourrait changer complètement la configuration de la relation thérapeutique. Et c'était également dans cette partie, dans cette partie-là, que j'ai essayé de comprendre quelles sont la force et de la sociologie, de l'approche sociologique et aussi de l'approche ethnographique dans les études du champ médical et également de la production langagière de la médiatrice ou du médiateur face à ce type de relations de soins. Et donc, là maintenant, je pense que... Je pense que j'ai déjà commencé à vous présenter un peu les apports un peu de manière générale de la thèse. D'abord, il s'agit en fait d'une diversité sociologique de cette population chinoise, donc dans lequel je prends plusieurs rapports sociaux en considération, notamment sexe, genre, génération migratoire, âge, origine régionale et origine sociale. Et deuxièmement, je parle en fait de l'efficacité de ce prisme, de cette optique d'analyse de la souffrance sur l'étude des migrations, sur leur trajectoire sociale, sur leurs conditions d'existence. Peut-être on pourra y revenir tout à l'heure au cours de la discussion si besoin. Et le troisième, ce serait justement de ce que je vous ai parlé autour de la langue, et également de comprendre que finalement, les relations thérapeutiques que j'ai pu observer entre les Français, les soignants français et des familles chinoises ne sont pas reposées uniquement sur l'altérité ethnique, mais aussi sur la distance sociale. Donc, par exemple, les parents, les patients des classes moyennes ou des classes supérieures, ça leur arrive de contredire le soignant en mobilisant leurs connaissances sur, par exemple, la médecine chinoise ou bien sur leur propre appréhension d'une telle ou telle psychopathologie, alors qu'un parent issu issus des classes populaires auraient plutôt tendance à se taire en consultation, de dire de suivre en fait les avis des psys, alors que à la sortie des consultations, cette même personne va me dire que c'est n'importe quoi ce qu'il m'a dit, je suis pas du tout d'accord, etc. Mais justement, ils vont pas tenir la même posture en consultation. Alors, la quatrième, hein, c'est de confirmer en fait la capacité épistémologique, hein, propre à la sociologie, de pouvoir contribuer à l'étude du terrain médical, le terrain médical, notamment psychiatrique, hein, est souvent considéré comme un terrain difficile d'accès pour les sociologues. La dernière, hein, ça renvoie en fait à un peu ce que je disais tout à l'heure au début de la conférence sur les écritures de Sayad et aussi toutes les prises en charge en fait avec une approche ethnopsychiatrique, hein, proposée notamment à destination des populations africaines et maghrébines, qui n'étaient pas vraiment beaucoup mobilisés pour l'accueil des migrants chinois d'origine asiatique. Et justement, ma thèse a montré que cette approche ne serait pas appropriée pour cette population, notamment pour les raisons des relations des héritages post-coloniaux ou des héritages non post-coloniaux, mais également pour les raisons du rôle acteur, notamment pour que les patients chinois jouent en consultation, notamment pour ceux qui sont en provenance des milieux des classes moyennes supérieures et des classes supérieures. Cette thèse a montré que finalement il faut tenir en considération davantage de rapports sociaux que la dimension culturelle et la dimension interculturelle de la prise en charge des migrants et plus largement dans l'accueil de migrants, et que il est vraiment nécessaire de déconstruire tous les discours culturaliste et culturalisant que les professionnels de santé ont tendance de tenir dans leur pratique professionnelle. Et donc, voilà, maintenant j'ai terminé ma présentation. Et donc, si cela vous intéresse, vous pourriez aller regarder les publications que j'ai mis en ligne. Donc, merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup, Simeng, pour cette présentation très claire de tout un champ d'expérience qui nous est inconnu, voire complètement inaccessible, même si en même temps, il fait aussi écho à d'autres... Oui, à des situations très, très concrètes qu'on peut observer pour d'autres groupes, cette question de ce que vous appelez les soucis matrimoniaux, dans la question de l'écart entre la prise de liberté sexuelle des jeunes et la norme des attentes du groupe. En vous écoutant, je pensais à d'autres phénomènes qu'on a pu croiser pour d'autres groupes et aussi dans l'histoire. Parce que moi, je travaille par exemple sur des populations plus anciennes et à des époques où il n'y avait pas d'espace de parole, il n'y avait pas d'espace ou de prise de parole possible, sinon à l'intérieur des cercles communautaires ou bien pour ceux qui avaient la maîtrise de la parole écrite. Des choses ont pu être dites et des souffrances psychiques formulées ou des trajectoires de rupture sociale également exprimées à travers la forme écrite du livre, du roman, etc. Donc c'est vrai que du coup là, on voit qu'il y a une dimension tout à fait nouvelle qu'apporte l'institution psychiatrique pour la connaissance de ces trajectoires migrantes. Voilà. Donc comme il nous reste seulement un quart d'heure pour un tour de questions, voilà, on fait circuler.
Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. Je voudrais savoir si c'est possible d'en savoir plus sur la troisième partie de la thèse, du coup, sur les relations thérapeutiques. Si on peut nous livrer plus d'informations, ce serait génial.
Je pense, outre l'exemple que je vous ai donné, hein, c'est-à-dire comment la classe sociale intervient dans les relations thérapeutiques, on pourra également souligner, par exemple, l'effet du genre, dans le sens où, en fait, quand un couple vient en consultation ensemble, la femme et l'homme ne jouent pas forcément les mêmes rôles. Si je prends l'exemple d'un enfant qui a été catégorisé comme handicapé psychique, quand le médecin a annoncé cette catégorie aux parents, le père s'est mis tout de suite en colère en disant que c'est pas possible, qu'est-ce que ça veut dire le handicap, alors que la mère à côté était sur le point de calmer son mari en disant de jouer ce rôle de médiatrice, de dire que on va discuter en famille, ensuite on va revenir ici pour parler à nouveau avec le médecin, etc. Après, on pourra aussi parler de discuter en fait la conséquence, hein, de l'enfant, de la présence de l'enfant en consultation. Lorsque le psychiatre ou le pédopsychiatre adresse, surtout le pédopsychiatre, pardon, parce que c'est autour de la prise en charge de l'enfant, lorsque le psy adresse la parole aux parents. Par exemple, je pense à un cas d'une femme, d'une mère célibataire, mère célibataire avec 2 ans, qui s'occupe de ses 2 garçons, qui a annoncé lors d'une séance soudainement l'idée de faire adopter ses 2 enfants par des familles françaises, en disant que parce que ces 2 enfants n'ont pas de père, donc bien évidemment l'affection paternelle ferait du bien aux enfants, donc pourquoi pas, nanana. Et la mère a parlé ça en mandarin. En mandarin d'abord, c'était moi qui l'a traduit, et ensuite j'étais un peu gênée parce que l'enfant de 8 ans était juste à côté, et juste après la phrase de la mère, avant que je la traduise en français, cet enfant commence à pleurer très très fort, très fortement, et ensuite j'ai tout de même traduit cette phrase en français, donc il a dû écouter la 2e fois parce qu'il comprend parfaitement le français. Et donc, la situation devient très, 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 très délicate. Et d'autant plus qu'à ce moment-là, le psy a ajouté était complètement choqué par le discours de la mère, a ajouté que je crois que la mère, qui a dit, hein, je cite en français, l'affection maternelle lui manque aussi. Et donc, sur le point, je ne savais pas comment traduire cette phrase en mandarin à la mère. Et du coup, j'ai dû hésiter. Et ensuite, j'ai reformulé. Et la mère n'a pas été... ça n'a pas déclenché une situation conflictuelle à proprement parler. Mais le psy... après avoir observé la réaction de la mère, qui n'était pas très en colère, m'a demandé directement en consultation, alors, est-ce que vous avez bien traduit, comment vous avez traduit, et du coup, on est parti sur toute une discussion autour des représentations en fait des images des femmes célibataires en Chine à la charge de deux enfants et j'ai dû mobiliser aussi des matériaux que j'ai pu collecter à l'extérieur du champ médical sur la vie de cette femme. C'était pas vraiment dans l'idée de la défendre, mais essayer de t'expliquer au psy que si elle a dit ça, c'était derrière cette idée de la mère qui abandonne, qui est tout de suite très mal vue. Il y a bien d'autres raisons, bien d'autres facteurs sociaux qui l'ont poussé à énoncer, à prononcer cette décision. Donc on peut bien évidemment discuter, par exemple, est-ce que c'est approprié que l'enfant soit toujours présent en consultation, si par exemple les psychiatres vont vraiment parler des conflits au sein du couple. Pour l'enfant, parfois, c'est difficile aussi à entendre, etc. Et aussi, on peut discuter bien d'autres choses. Mais voilà.
Pardon. Oui, bonsoir. Oui, si toutefois, moi, en tant que Français, j'ai un emploi en Chine pour un contrat de 2 ans, et puis la fatalité, je rencontre une Chinoise, on décide donc de se marier. Est-ce que je peux prendre la nationalité chinoise à ce moment-là?
Et à ma connaissance, la Chine est la nationalité chinoise est la plus difficile à obtenir dans le monde entier. Hein, donc ça m'étonnerait pas que que vous rencontriez des difficultés, mais je crois que les statistiques montrent que par an, le gouvernement chinois attribue moins de 50 nationalités. C'est par rapport au nombre d'étrangers présents en Chine, c'est vraiment rien.
Merci beaucoup, Simène, pour cette présentation. Juste une toute petite précision, parce que on arrive avec l'exposé à une période qui est celle de la relation qui s'est installée, etc. Mais est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur la prise de décision d'aller dans une consultation? Est-ce qu'il y a, dans les échanges qu'il y a pu y avoir avec les familles, il y a déjà un délai qui peut être plus ou moins important? Est-ce qu'il est variable selon les catégories de population qui ont pu être étudiées? Et d'une certaine manière, le fait d'avoir un suivi répété, un peu long comme ça de ces familles sur le temps de la thèse, qu'est-ce qu'on peut dire en fait entre la relation thérapeutique et la réception thérapeutique, c'est-à-dire qu'est-ce que le fait d'avoir une relation régulière au sein d'institution amène effectivement à mieux formuler, mais à la fois mieux formuler pour les deux acteurs, vous en tant que médiatrice et le patient qui découvre ce type de consultation. C'est encore une toute petite question, le petit mot sur la consultation. On a le sentiment qu'il peut y avoir une sorte de concurrence thérapeutique qui s'installe avec les nouvelles technologies, et notamment l'usage de Skype. Est-ce que c'est vu en tant que concurrence thérapeutique ou est-ce que c'est d'autres d'un autre ordre, que c'est d'autres motivations qui créent le choix de se tourner vers une consultation par Skype?
Merci pour ces questions. Je vais prendre dans l'ordre inverse pour y répondre. Il est vrai que, par exemple, toutes les nouvelles technologies de soins en Chine, ça se développe beaucoup. Mais encore, c'est une méthode largement empruntée par des intellectuels, des gens qui sont diplômés, qui font partie en fait vraiment des élites, des migrants élites, alors que chez les classes moyennes qui peuvent retourner en Chine régulièrement. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'ils retournent en Chine pour accessoirement se faire soigner, pour vérifier les diagnostics prescrits par les psys français, ou bien pour consulter les plus prestigieux médecins chinois. pour essayer de voir dans le système de soins alternatifs qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution. Alors que pour les populations plutôt issus de milieux populaires, dont certains ont déjà eu un titre séjour, donc ils peuvent rentrer en Chine, mais manque de moyens, ils vont pas forcément rentrer en Chine pour l'usage du soin, et qui n'ont pas forcément en fait non plus cette culture d'aller voir en ligne. Donc qui sont pas forcément connectés avec ce monde-là. Et pour les sans-papiers, c'est encore pire, dans le sens où, en fait, ils peuvent pas rentrer en Chine. Donc, ils vont pas se faire soigner autrement avec des ressources de prise en charge sanitaire en Chine. Et ensuite, la deuxième question sur... il est vrai que, étendu sur une relativement longue durée d'enquête, j'ai pu observer en fait quelque chose que j'aimerais bien vraiment approfondir. C'était une ouverture de la thèse. C'est observer en fait en mobilisant des connaissances en sociologie des sciences, d'observer comment les professionnels de santé changent d'attitude dans l'accueil de patients chinois, parce que et pour ce faire, bien évidemment, il faut absolument mener des entretiens assez approfondis sur le parcours social de ces professionnels de santé, ces médecins, de voir leur socialisation primaire, mais aussi secondaire, que je n'ai pas pu faire du tout dans le cadre de ma thèse. Mais effectivement, sur mon terrain, ce que j'ai pu observer, c'est une hypothèse à soumettre à vous, c'est que les médecins... en fonction de son orientation clinique, aussi en fonction de ses proximités avec le monde chinois, mais aussi avec la langue chinoise, ils paraissent plus ouverts aux sciences sociales au fil du temps. Où ils s'enferment, ils vont tout de suite dire non, on n'a pas besoin d'appréhension, d'explication sociologique sur la sociogenèse de souffrance, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout fondu. Ou il y a quand même certains patients cliniciens qui m'ont dit, dont certains qui m'ont dit une phrase qui est assez révélateur. À mes yeux, c'est que cette personne reçoit à la fois des patients chinois dans un service, dans un CMP, et d'autres populations, surtout d'origine africaine, dans un autre service. Au bout de 3 ans de travail ensemble, en binôme, il m'a dit, je me suis rendu compte que les Chinois sont pas forcément plus différents que des Africains. Ceux qui sont venus chez moi, c'est plutôt je vois davantage de différences entre les migrants en situation de précarité avec les migrants élites. Donc ça, c'est quand, à mon avis, ça, c'est quand même quelque chose, mais après c'est pas ça, ça n'arrive pas à tout le monde, tout dépend en fait aussi de la configuration institutionnelle des structures de soins, etc. Et par rapport aux migrants, à la population chinoise, il est vrai que cela renvoie également à la question qui relève de la sociologie ou l'histoire, de l'histoire des sciences, c'est-à-dire comment ces individus vont s'approprier ou se réapproprier des connaissances de la psychiatrie française. C'est-à-dire en fonction de quel de quels facteurs sociaux ils vont paraître plus aptes à accepter un recours aux soins ou non. Mais après, je pense que ce sont vraiment des ouvertures en fait à vraiment y réfléchir. Et ensuite. Votre première question, c'était sur l'attente, c'est ça, c'est la durée d'attente. Il est vrai que ce que j'ai pu constater, c'est que les ressources sociales comptent beaucoup dans l'orientation du soin. Bien évidemment, en fait, c'est la génération migratoire prime. Dans le sens où, en fait, les enfants en pédopsychiatrie sont majoritairement orientés vers ces services-là par les professionnels dits de la première ligne. Ce qu'ils appellent de la première ligne, ce sont des enseignants à l'école, ce sont des pédiatres, ce sont des médecins traitants. Ce sont des gens qui jouent un rôle fondamental dans l'orientation, dans le repérage des difficultés psychologiques des enfants. Alors que pour les adultes, pour les primo-arrivants, leur entrée, en fait, comment ils ont pu déclencher une prise en charge, c'était souvent à la suite d'une déviance, d'un comportement de déviance au public, dans l'espace public. Donc, il y a eu une hospitalisation d'office et il a connu, cette personne a connu en fait le suivi. Par exemple, une chef d'entreprise petite entreprise qui a brûlé trois feux en conduisant et elle a été arrêtée par la police. Et ensuite, lors de l'échange avec les policiers, ces agents trouvent que elle tenait pas forcément un discours clair, etc. Donc ça déclenchait en fait une prise en charge par la suite en psychiatrie pour les adultes. Et ça, c'est déjà ça, c'est comment la génération migratoire détermine la modalité d'entrée. Sinon, pour ceux qui conjuguent en libéral, hein, dans le secteur privé, c'est les ressources, les réseaux sociaux qui jouent beaucoup. C'est-à-dire que souvent, c'est par reconnaissance qu'on a découvert tel ou tel cabinet, qu'on a découvert tel ou tel psychothérapeute. Mais ensuite, la langue joue aussi un rôle assez important parce que les choix deviennent tout de suite assez restreints quand on exige que la consultation en libéral soit dispensée en mandarin. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une quinzaine, vingtaine de gens sur le marché qui offrent ce soin. Alors que dans le secteur public, pas du tout. Mais dans le secteur public, c'est encore une autre logique. Et bien évidemment, pour les gens qui vont prendre le rendez-vous dans un cabinet privé, il est très vite accueilli, dans le sens où, en fait, la prise du premier rendez-vous ne sera pas au-delà d'un mois. Alors que dans le secteur public, encore ça dépend des services, au plus vite, j'ai vu qu'un cas pourra être pris en charge au bout de 2 semaines. Et sinon, en moyenne, c'est 3 mois. Ça coïncide un peu à la durée d'attente en moyenne de toutes les prises en charge en psy.
Il y aura encore beaucoup de questions, mais malheureusement... plus le temps.
Merci encore. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a des signatures à faire? Non, pas particulièrement pour les... Non, c'est bon.